Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Chant contre Chant, une émission mensuelle sur le cinéma réalisée sur fréquence protestante par l'association Profil, qui, rappelons-le, signifie protestant filmophile et qui, comme son nom l'indique, est à la fois d'inspiration protestante et fait par des gens qui sont passionnés de cinéma. Cette émission sera présentée par moi-même, Jean Lot, et animée par Jacques Champeau. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Françoise Lot, bonjour Françoise.
Bonjour.
Et Jean-Michel Duquet, bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Chaque rentrée de septembre est marquée par la sortie de films importants ou supposés tels. Dans cette émission, nous en avons choisi trois. Vous n'avez encore rien vu d'Alain René, Reality de Matteo Garrone et Quelques heures de printemps de Stéphane Brisé. Cet échantillonnage sera complété éventuellement par quelques coups de cœur de nos animateurs. Nous allons commencer tout de suite par Vous n'avez encore rien vu. Donc, film d'Alain René, dernier film d'Alain René. On sait que depuis longtemps, le cinéma d'Alain René flirte avec la mort. Dans le précédent film, Les Herbes Folles, on voyait un couple qui s'envoyait en l'air au propre comme au figuré pour finir le film. Là, René va encore plus loin, avec le personnage principal qui, cette fois-ci, est un mort. Antoine Dantac, auteur-metteur en scène bien connu et adulé, qui organise sa propre veillée funèbre, une espèce de veillée spectacle en quelque sorte, dans une maison aux allures de tombeau, et à laquelle il invite tous les acteurs qui ont déjà joué pour lui, et de plusieurs générations. Il y a Lambert Wilson, Michel Piconi, Sabine Azéma, Annie Dupéré, Mathieu Almaric. Ces acteurs jouent leur propre personnage dans un film de fiction, dans un film qui est complètement hors norme, qui mélange les frontières, qui abolit la distance entre théâtre et cinéma. Un film de magicien. Un film qui est présenté à Cannes et qui en est revenu sans la moindre sucette. Alors Jean-Michel, est-ce une injustice ?
Oui, je pense que c'est une injustice absolue, parce que ce film était un de ceux qui auraient pu justifier de la Palme d'Or, ou en tout cas d'un prix par le jury. C'est un film qui est à la fois amusant et tragique, d'un pessimisme profond, comme souvent chez René. C'est en réalité une véritable fête pour l'intelligence et pour le cœur, et ça a été parfaitement illustré à Cannes au cours de la conférence de presse dans laquelle le réalisateur a, avec humour et légèreté, a délivré un véritable message d'amour à ses comédiens qui ne cachaient pas leur bonheur de jouer pour ce maître qui suscite de leur part autant d'admiration que de tendresse. C'est caractéristique. Le titre qui est issu aléatoirement d'un gag entre les acteurs pendant le tournage, nous renvoie un petit peu où tu n'as rien vu à Hiroshima, d'une part, et d'autre part, pour René, c'est le « Vous n'avez encore rien entendu » que chantait Al Johnson dans le premier film parlant du cinéma en 1927. Alors, il faut accepter, pour jouir pleinement de ce film, de se laisser bercer par la langue d'Anouilh, qui peut sembler à certains datée, ce sont les années 50, le post-surréalisme, l'héritage de Cocteau. Il faut aussi entrer dans le jeu de René, car il s'agit d'un jeu, c'est-à-dire de faire surgir chez ces acteurs chevronnés et bien-aimés des bouffées d'imaginaire, et René se fait une joie lorsqu'on parle à son propos de documentariste de l'imaginaire, au spectacle d'une pièce jouée par 13 acteurs dont René a confié complètement la mise en scène à Denis Podalydès pour s'appuyer au montage sur le choc des deux interprétations de cette histoire. La mise en scène est fascinante, je ne reviens pas sur les acteurs prestigieux qui viennent d'être signalés par Jean. Les acteurs sont assis sur des canapés et puis se lèvent et s'introduisent de façon récurrente dans le déroulement de la pièce à laquelle ils assistent. Ils s'interpellent sans se regarder et ils rêvent en revisitant les rôles qu'ils ont interprétés jadis comme sous hypnose, pour produire une nappe continue et fluide d'émotions que le montage exalte, bien loin des raccords traditionnels, chant contre chant, qui sont bien connus. Et en fait, c'est de l'artificialité même du théâtre auquel René rend hommage que jaillit la vérité des sentiments et cette poignante nostalgie de l'amour éternel que nous ressentons en voyant ce film. Amour qui devrait être plus fort que la mort, mais qui est battu en brèche par le destin, magistralement campé par Mathieu Amalric.
Merci Jean-Michel. Je vois que tu t'as fait l'audateur de ce film. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, Françoise? Est-ce que tu voudrais... Comment tu réagis à ce film?
Ah, moi, je défends le film Mordicus. C'est un film que j'ai aimé parce que je le trouve à la fois grave et jubilatoire. Grave parce qu'il s'agit d'un mort. Jubilatoire parce que c'est un film avec lequel on peut jouer, qui fonctionne par emboîtement successif. Et j'ai bien aimé ces acteurs vieillissants dans cette espèce de grande maison qui ressemble un peu à un tombeau et qui regarde par l'écran, qui est comme une fenêtre, comme un soupirail, ils regardent les jeunes acteurs qui continuent de jouer cette pièce et qui disent que l'art est immortel, que certes les acteurs ne le sont pas, mais le mythe, l'art, le théâtre, c'est immortel. J'ai beaucoup aimé le film.
Oui, bon... Moi, je veux dire que j'ai eu beaucoup de difficultés avec le texte d'Ayn Rand que je trouve poussif, ringard, qui n'avance pas. Wow. On a l'impression qu'il s'auto-alimente. Il tète son propre sein, il se nourrit lui-même au lieu de nourrir son sujet. Jacques, comment est-ce que tu en penses?
C'est méchant.
Je suis à la fois d'accord avec toi et avec les autres. C'est-à-dire que c'est un film qui est délicieux, c'est un jeu sur le théâtre et le cinéma. On éprouve énormément de plaisir à revoir des acteurs connus qui jouent effectivement à la fois leur propre rôle et puis leur personnage dans un aller-retour entre rêve et réalité, entre frais et faux. Donc c'est un jeu auquel on prend plaisir. Surtout si l'on aime le théâtre, si on ne l'aime pas du tout, je pense qu'il vaut mieux éviter ce film. Mais je suis assez d'accord avec toi, Eurydice n'est pas la meilleure pièce d'Ayn Rand, et on peut ne pas aimer Ayn Rand. Donc je pense que ce brillant divertissement n'est peut-être pas, ça explique peut-être qu'il n'ait pas eu toutes les palmes que Jean-Michel voulait lui donner, le film qui restera dans nos mémoires peut-être le plus fort de René, à mon avis en tout cas.
Jean-Michel, tu veux dire quelque chose?
Oui, c'est juste un mot, parce que moi j'ai revu le film, je l'avais vu à Cannes, j'ai revu le film hier soir, j'étais sensible à beaucoup d'autres choses que la première fois, et si je peux faire un tout petit bémol sur ce que j'ai dit, je regrette qu'à partir de la moitié du film, une place plus grande ait été donnée au couple Arditi-Azéma par rapport au couple Consigny-Wilson, qui est véritablement extrêmement émouvant et dont on regrette un petit peu qu'il n'ait pas été aussi privilégié que le couple historique pour René de Arditi-Azéma.
Oui, ben Jean-Michel, tu m'as donné envie de revoir ce film et de voir si à deuxième vision je supporterai davantage Ayn Rand. Parce que bien que, enfin, Jacques, j'aime beaucoup le théâtre, mais c'est vraiment Ayn Rand et dans cette pièce-là que je ne veux pas supporter.
Mais il faut voir le film plusieurs fois, il est très dense.
Et il faut relire Ayn Rand, parce qu'il s'agit là de l'accouplement d'une pièce baroque, Antoine, ou l'amour raté, et l'Eurydice. Et le dispositif du film, avec notamment l'ouverture extraordinaire, provient d'Antoine ou l'amour raté, et cette association est tout de même assez subtile.
D'accord, bien. On reverra le film. Bon, mais nous allons passer peut-être maintenant au deuxième film qui, enfin, je pense de manière générale, a quand même moins d'intérêt que celui de René. C'est le Reality de Matteo Garrone, qui a été très primé à Cannes, à l'inverse du film de René, puisqu'il a reçu le grand prix du jury de Cannes cette année, c'est-à-dire en fait le prix qui récompense en principe un auteur. Bon, Matteo Garrone est un cinéaste relativement obscur et un petit peu inconnu jusqu'en 2008, où son Gomorra lui a fait connaître les trompettes de la renommée. Un succès d'ailleurs qui sans doute était grandement dû au sujet qu'il avait choisi, c'est-à-dire la mafia. Alors on peut se demander si dans ce nouveau film, il ne s'est pas dit « est-ce que je ne vais pas reprendre un grand sujet, à savoir un sujet de civilisation ?» D'où peut-être cette idée de civilisation pleine décadence, dans laquelle toutes les valeurs foutent le camp, où on montre l'aliénation d'une société qui, surgavée de télévision, se déshabille de ses valeurs et plonge dans le miroir aux alouettes. Et puis à cette réalité sociale, peut-être l'idée d'une autre idée cinématographique, là, essayer de réveiller la comédie italienne. Voilà. Est-ce que, Jacques, c'est ainsi que tu vois le film?
Moi, c'est un film que j'ai aimé. Donc, le film se passe à Naples. Le héros, Luciano, est un chef de famille exubérant, poissonnier, et qui est un peu bonimenteur dans les fêtes de famille. Et un jour, poussé par ses enfants, il participe, sans trop y croire, à un casting d'une émission de télé-réalité. Alors, il se prend au jeu, et petit à petit, on va voir sa vie entière basculer, puisque plus rien ne comptera pour lui, finalement, que participer, qu'être sélectionné, participer à cette émission. Alors, comme tu le disais, Matteo Garrone, il est connu jusqu'à présent pour un film très différent, hein, qui est un film très noir, très sombre sur la mafia napolitaine. Et là, il se lance dans un des grands plaisirs, je dirais, du cinéma italien, qui est la comédie italienne. Sur un sujet d'actualité, la télévision, ou plus exactement la fascination provoquée par les émissions de télé-réalité, et puis par la gloire et l'argent facile, ou comment cette fascination peut finalement conduire un homme à la folie. Alors, ce qui est intéressant dans ce film, c'est de voir comment la société de production de l'émission devient progressivement, dans l'esprit de Luciano, un espèce de dieu omniscient qui surveille toutes ses actions. Il va finir par distribuer tous ses biens, un peu comme Saint François, hein, le Poverello, non pour satisfaire sa conscience ou pour aller vers Dieu, mais pour être bien noté, pour être sélectionné. Donc on voit la télé remplacer Dieu. Et cette descente dans la folie est à la fois très drôle et impressionnante. Alors, pour donner du corps évidemment à ce film, le réalisateur campe autour du héros, une famille napolitaine qui est haute en couleurs, qu'on peut aimer ou ne pas aimer, et dans le décor incroyable d'un ancien palais complètement délabré. Les personnages sont drôles, filmés gentiment à mon avis, sans férocité, on a un cinéma qui est quand même assez intéressant, enfin en tout cas dans certaines parties, il y a des faiblesses quand même, il y a des longueurs à certains moments, notamment le début et la fin qui se répondent, sont tout à fait symboliques. Le zoom d'ouverture nous fait passer du gris au très coloré, et à l'inverse, le zoom inverse de la fin, qui se passe de nuit, nous découvre progressivement une lucarne éclairée dans un toit, et cette lucarne dévoile un homme à terre dans un carré lumineux. Donc on voit la télévision finalement comme une ouverture sur le monde au départ, qui se transforme à la fin du film en un enfermement. Donc un film qui a peut-être certaines faiblesses, sans doute quelques longueurs, mais qui manque peut-être parfois un peu de rythme, mais qui est globalement drôle, il n'y en a pas tant que ça de nos jours, et sur un sujet d'actualité. Donc je trouve que ce mélange de comédie et d'intérêt social en fait un film que je recommande, enfin en tout cas qui est intéressant à voir.
J'ai eu le sentiment que Jean-Michel ne partageait pas tout à fait cette opinion sur ce film. Jean-Michel, si tu veux réagir un petit peu.
J'apprécie ton ironie et ton narquois. Genre, oui, autant le contenu tel qu'il a été, il vient d'être décrit, me paraît tout à fait estimable, autant la forme et la façon dont Garrone essaye de ressusciter, disons, la comédie italienne des grands moments de la grande période des années 60, avec des noms prestigieux comme Ancini, Monicelli, Risi, Germi et Ettore Scola, on en est très loin. Et ne parlons pas de Fellini, que le cinéaste cherche à singer de temps en temps en nous montrant quelques personnages obèses. C'est attristant parce que les clins d'yeux aux spectateurs sont beaucoup trop appuyés et beaucoup trop nombreux pour que, en ce qui me concerne, je puisse faire autre chose que de rentrer dans ma coquille et ne pas trouver prétexte à rire à aucun moment. J'ai détesté ce film.
Françoise, est-ce que tu apportes quelques nuances à l'opinion tranché de Jean-Michel?
Pas vraiment, je ne peux pas dire que ce film m'est convenu, mais pas du tout. Je trouve que c'est un bon sujet, mais que la façon de le traiter par Garrone, il a enfoncé des portes ouvertes d'un bout à l'autre. Je trouve que c'est un bon sujet et un mauvais film. J'ai eu le sentiment que Garrone n'aime pas ses personnages, et du coup, moi, je ne les aime pas non plus, pas du tout. Ils ne m'intéressent pas. J'ai trouvé que les couleurs étaient laides, que les grosses matrones n'étaient pas belles non plus. Je me suis horriblement ennuyée, sauf la première séquence, qui est géniale. Mais ensuite, je m'ennuyais, je regardais ma montre en me disant, quand est-ce qu'on sort? Voilà, donc non, je ne soutiens pas le film.
Oui, moi, enfin, je trouve quand même que vous exagérez peut-être un petit peu. Je ne partage pas tout à fait l'enthousiasme de Jacques, mais moi, enfin, je considère que c'est un film ambitieux et partiellement raté. Enfin, j'étais sensible à l'ambition de vouloir parler de cette société, de la cucuterie. On a l'impression qu'on retrouve un peu Gombrowicz et Ferdi-Dürck dans cette attaque de la société. J'étais sensible aussi au côté kafkaïen du personnage dont l'objectif est d'entrer dans le château, d'arriver au château par tous les moyens. Et puis, ce dont dit déjà tout à l'heure, moi je partageais cette opinion, cette espèce de développement de la paranoïa qui le fait devenir complètement dépendant des fonctionnaires de la télévision, m'a paru quand même intéressante. Bon, ceci dit, là où je trouve quand même que c'est un petit peu raté, c'est que je trouve qu'il y a peut-être trop de thèmes, que trop de fils rouges et que le réalisateur s'en mêle un petit peu les pattes dans tous ses nœuds.
Puis Kafka serait blessé que tu le mélanges à cette analyse.
Non.
Tu tu as ajouté pour défendre ta cause, rapidement.
Non, je pense que ce film a quelques faiblesses, il a quelques longueurs. Mais par contre, je vous trouve un peu, un peu trop critique sur le côté comédie italienne. Il y a eu beaucoup de comédies italiennes qui étaient quand même assez burlesques comme ça. Et je pense que s'attacher au fait que les personnages sont gros pour ne pas les aimer, c'est excessif.
C'est vrai, mais il y avait des acteurs comme Toto.
Et puis on aime les grosses femmes de Fellini. C'est dû à la façon dont elles sont filmées. Elles sont filmées sans... Fellini aime ces personnages.
Oui, elles ont du charme, elles sont attirantes, attachantes. Tandis que là, c'est vulgaire.
Voilà.
C'est pas un mot que j'emploierais, mais bon.
Donc allez voir le film.
Allez voir le film pour voir quand même. Bon, on restera là sur ce film pour passer à un autre film. Il a fait le dernier de notre sélection de trois de ce mois-ci. Un film que j'estime très important, que j'ai trouvé personnellement magnifique et qui me paraît un des films capitaux de cette rentrée. Il s'agit de Quelques heures de printemps de Stéphane Brisé. Stéphane Brisé fait partie des cinéastes pas suffisamment reconnus encore, étant donné l'œuvre qu'il a faite avec des films comme Le Bleu des villes, comme Je ne suis pas là pour être aimé, comme Mademoiselle Chambon. Tous des films qui tournent autour de la difficulté à communiquer. Quelques autres printemps n'échappent pas à cette règle, tout en se situant dans un contexte tout à fait particulier. Il tombe en plein dans un débat de société, celui de l'euthanasie, ou plus exactement, celui du droit à choisir sa mort. Il y a eu la Leonetti en 2005, on sait que vient d'être créée la mission SICAR. Alors, le risque serait de penser que l'on est dans ce thème-là, dans la mesure où le personnage principal, Yvette, est atteinte de tumeur cancéreuse au cerveau qui métastase, la médecine est catégorique, elle est condamnée. Elle décide de faire appel à une association suisse qui pratique le suicide assisté avant que sa maladie devienne trop catastrophique pour elle. Alors, est-ce un film à thèse, Françoise ?
Non, moi je n'y ai pas vu du tout un film à thèse. À mes yeux, ce n'est pas un film à thèse. Parce qu'à aucun moment, le film ne plaide pour le suicide assisté. L'oncologue qui suit Yvette fait valoir sa position, qui est en faveur des soins palliatifs, tout en respectant le choix de sa patiente, qui, elle, veut, comme elle le dit, mourir dans la dignité. Ceci dit, c'est un film parfaitement documenté sur la question. Mais avant tout, je dirais que c'est l'histoire bouleversante d'une mère et de son fils qui ne se supportent plus, qui ne se parlent plus, qui sont enfermés dans leur solitude et qui souffrent, sans le savoir, de la même souffrance. Le fils, c'est Alain Évrard, qui est incarné par Jérôme Lindon, magnifique, merveilleux. Alain Évrard a 48 ans, il sort de prison, il était condamné parce qu'il a transporté de la cam dans son... Il est routier dans son camion. Sans travail, il se retrouve obligé d'aller vivre chez sa mère, en province, et la cohabitation est explosive entre une mère veuve, râpeuse, peu bavarde, et un fils silencieux, blessé, colérique. Et ce sont deux solitaires qui s'exaspèrent mutuellement. Entre eux, heureusement, Cali, qui est la vieille chienne, et qui est vraiment le trait d'union. La mère est incarnée par Hélène Vincent, qui est admirable d'intelligence, de sensibilité. Elle est bouleversante. Alain découvre que sa mère est atteinte d'un cancer, comme tu disais, une tumeur au cerveau qui évolue mal, et son fils découvre qu'elle a pris contact avec une association en Suisse, qui pratique le suicide assisté, qui est légal dans ce pays. Et Alain accompagne sa mère en Suisse pour ce dernier rendez-vous, c'est-à-dire le rendez-vous avec la mort qu'elle a choisie. La force dramatique exceptionnelle de cet instant-là joue le rôle d'un explosif qui va faire sauter les verrous entre elle et son fils. Et rassurez-vous, ni pathos, ni complaisance, pas une once de morbidité, c'est tout simplement, à mes yeux, c'est tout simplement magnifique, bouleversant d'humanité, admirable et terrible. J'ajouterais que c'est un film très pudique à l'image. Des plans rapprochés sur l'intensité des regards, puisqu'ils ne parlent pas, sur les infimes nuances de l'expression, des champs contre champs qui marquent la rupture entre les personnages, des plans séquences qui n'en finissent pas, qui font s'écouler le temps au rythme du sablier. Et je revois ce beau plan d'Yvette, filmé de dos, assise en pleurs dans l'escalier, parce qu'elle a cru au retour de son fils, mais qu'il n'en est rien. Bon, vous avez compris, je soutiens le film.
Oui, je comprends que tu étais très très laudative. Est-ce que, Jacques, Jean-Michel, est-ce que vous êtes également sur cette tonalité-là? Jacques, tu...
J'aurais peut-être quelques nuances quand même. C'est un film qui est très maîtrisé, peut-être un peu ennuyé à certains moments, et qui pour moi est beaucoup plus effectivement sur l'impossibilité de communiquer que sur la fin de vie. Alors, il est vrai qu'il est porté par de remarquables acteurs. Bon, Lindon est bon, mais il fait un peu du Lindon. Mais par contre, Hélène Vincent, dans le rôle de la mère, est absolument bouleversante. Mais c'est un film que j'ai trouvé vraiment très sombre, totalement désespéré, parce que finalement, la mère et la fille et le fils ne peuvent se retrouver qu'au moment de la mort de la mère. Et pas avant. Et donc, tout le film, sauf la dernière minute, il ne se retrouve pas. Et puis accessoirement, mais ça c'est un peu un détail, j'avoue que je n'ai pas beaucoup aimé, vers la fin, les dernières images idylliques de cette Suisse accueillante avec petits chants d'oiseaux, qui ressemble un peu trop, j'ai trouvé, à un spot publicitaire pour le suicide assisté. Mais ça c'est un peu un détail, parce que c'est un peu une rupture avec le reste du film. Voilà. Donc oui, c'est un bon film, avec pour moi quelques réserves.
Jean-Michel, tu...
Oui, en deux mots, l'argumentation, je suis d'accord avec François sur le caractère très largement extraordinaire de ce film. C'est un film intimiste. J'ajouterais que il n'y a pas que le duo mère-fille, il y a aussi, c'est un véritable quatuor par moment entre la compagne occasionnelle du fils de Jérôme Lindon et la très très bonne interprétation aussi de Monsieur Lalouette, qui est ce voisin très très présent et très apprécié par la mère. Donc ça, je crois que c'est important. Pour ce qui est du suicide assisté, moi je vois un petit peu différemment l'image de la Suisse. Je sens un peu une ambivalence et la possibilité de critiquer un petit peu ce trop beau, cette chose trop belle qui nous est donnée à voir. Et je pense que ça fait partie de cette dimension. Le sujet n'est pas au cœur du film, comme l'a dit Jean, mais malgré tout, c'est un film qui contribue considérablement à la réflexion qui a lieu en ce moment au sein de la mission de Sicard.
Moi, je partage pas tout à fait l'avis de Jacques, là, sur cette question de Suisse trop accueillante. Je trouve qu'au contraire, on a une mise en scène de la mort absolument extraordinaire, à la mesure où la mort est toujours entourée en général de dramaturgie, de tout un décorum, dans les hôpitaux, il y a du sang, il y a des larmes, et tout un ensemble tragique, alors que là, on n'est jamais si loin dans la litote. Et je trouve absolument extraordinaire ce moment où ils arrivent dans ce petit pavillon suisse, et où la dame les entre, on les dit « entrez seulement ». Comme si elle les invitait pour prendre un café, alors que c'est la mort qu'elle les attend. Et je trouve que ça, c'est extraordinaire, cette espèce d'ellipse totale.
Non, c'est moi les images du pavillon, où là, je te rejoins totalement, que la campagne et la nature autour, où les petits champs gazouillants d'oiseaux en rajoutent un peu trop, à mon avis. Mais c'est un personnel.
Jean-Michel.
Une phrase pour dire que j'ai rarement rencontré dans un film une telle finesse dans l'expression de la relation entre un médecin et un patient. Il n'y a pas de caricature, et c'est quelque chose qui n'est pas spectaculaire, mais qui est complètement au crédit de ce médecin qui représente ce qu'il y a de mieux dans la profession.
Oui, c'est l'impression que j'ai eu également, tout à fait.
Et puis un mot aussi pour signer que la mise en scène est remarquable, l'utilisation des plans séquences qui traduisent la continuité, ou au contraire des champs contre champs qui traduisent la rupture, l'incompréhension, ou bien également les... Cette utilisation systématique des plans de profil, qui sont, c'est bien des plans assez durs. Enfin bref, il y a une adaptation de la mise en scène que j'ai trouvé tout à fait remarquable.
Et puis je voudrais ajouter les dialogues également, qui sont rares et qui sont magnifiques, parce qu'ils nous rendent sensibles la pesanteur, la solitude, l'incommunication. J'ai trouvé vraiment les dialogues parfaits, voilà, d'un bout à l'autre. C'est vrai qu'on s'ennuie, mais c'est normal. C'est fait pour.
D'accord. Bien, on va passer maintenant, puisqu'il nous reste encore du temps, aux deux coups de cœur qu'on vous avait promis au début. Donc, il y a coup de cœur, il y en a deux. Un de Jean-Michel. Vas-y, Jean-Michel.
Cherchez Hortense. Oui, Cherchez Hortense. Vous la trouverez sans doute vers la fin. C'est un film tout à fait réussi, à mon sens, de Pascal Bonitzer, qui a fait Rien sur Robert avec Fabrice Lucchini, Petite coupure avec Daniel Auteuil, et qui a un goût pour des histoires baroques un petit peu étranges, et qui a fait des scénarios pour Rivette et Ruiz, c'est tout dire. C'est très simple, l'histoire, c'est Damien, un homme très sympathique et fragile, professeur de littérature chinoise, qui a accepté de parler à son père, qui est président du Conseil d'État, d'intercéder au cas du cas d'une certaine Zoritsa qui est menacée d'expulsion. Voilà tout. Mais ce qui fait toute la richesse de ce film, c'est les relations humaines de Damien avec son père, l'extraordinaire Claude Rich, avec son fils qui est interprété par un jeune homme extrêmement vivant et qui représente bien un adolescent d'aujourd'hui plus mature que son âge, et enfin avec sa femme qui est Christine Scott Thomas en plein désarroi. Ce film est marqué par l'alternance de rire et d'émotion qui sont constamment renouvelées dans son cours. C'est une interprétation absolument convaincante à tous les niveaux et qui est dominée par un Jean-Pierre Bacri totalement convaincant.
Merci pour ce coup de cœur, Jean-Michel. Jacques, le tien alors?
Oui, alors La Vierge, les Coptes et moi, bon, c'est le premier film d'un jeune réalisateur franco-égyptien, donc Samir Abdel Messé. C'est un film à très petit budget et c'est un objet cinématographique difficilement identifiable qui tient du documentaire et de la fiction, de l'œuvre autobiographique et de la comédie loufoque. Alors cette enquête sur les apparitions de la Vierge, en fait, est un prétexte à évoquer un certain nombre de sujets, le sacré, le sentiment religieux, les problèmes de l'immigration, mais aussi le cinéma. Et c'est une autre façon de voir le cinéma que celui de René. Mais c'est tout à fait intéressant de voir comment on peut monter une œuvre cinématographique à partir de bouts de ficelle et à partir d'acteurs non professionnels. Donc un film qui est un petit film, mais tout à fait attachant et plein de fraîcheur.
Merci Jacques. Il ne nous reste plus que maintenant qu'à rendre l'antenne, je crois que le temps est venu, et remercier Fréquence Protestante, remercier Jean-Michel et Jacques, et dire à nos auditeurs, rendez-vous en octobre, le 26 octobre à 14h, dans notre champ profilien.